le droit, parce que Suzette Sando estime que le droit est certainement le meilleur moyen d'apprendre le respect de l'autre. La politique, parce que tout ce qu'elle a mené au long de sa carrière politique, eh bien, est à la recherche du bien commun. On retrouve là toute la noblesse de l'action politique chez Suzette Sando, qui est en lien aussi avec l'engagement social, l'engagement religieux. Là aussi, je ne vais pas citer hein, tous les conseils de fondation dont elle a fait partie. Elle est en course à faire présidente hein, de l'orchestre de chambre de Lausanne sur le plan religieux. Elle est au comité du synode des églises évangéliques réformées vaudoises. Donc, énormément de liens entre politique, social et religieux. Et puis enfin, il y a l'écriture, la tchatche aussi, hein, comme on le dit chez nous, hein, qui lui permet bien de poser les questions essentielles, parfois celles qui gênent aussi, ce qui lui vaut parfois eh bien, des attaques de la part de milieux qui sont peut-être figés sur leur certitude. Hein, je pense peut-être au milieu LGTB, je pense aux féministes, peut-être à certains politiciens juristes, etc. Mais celle qu'on désigne parfois comme un aiguillon réactionnaire charmant, eh bien, c'est se faire pardonner. Hein, parce que derrière son caractère peut-être un peu bûcheuse, il y a aussi hein, un caractère espiègle et qui attire les sympathies de ses contradicteurs aussi. J'ai même lu sur un blog hein, cette phrase « Je ne partage pas les idées politiques de Mme Sando, mais j'admire ses prises de position et sa franchise. » Alors, Mme Sando, maintenant, je vais vous laisser la parole hein, pour nous convaincre que le droit, et c'est le titre de votre conférence, est la force du faible et est aussi l'arme du pacifique.
Bien, cher monsieur, si la meilleure manière de faire perdre ses moyens à un conférencier, c'est de le couvrir de compliments et d'assurer la déception de la salle après coup, vous avez pleinement rempli votre mission, mais vous m'avez fait rougir. Le droit, force du faible, arme du pacifique, c'est horriblement prétentieux comme titre. Et pourtant, je crois que ça correspond à quelque chose et nous allons même peut-être être souvent d'accord avec le professeur Michel, auquel il est redoutable de succéder dans un exposé qui va vous faire redescendre. Alors, au niveau des pâquerettes, hein, pas de problème, tout à fait les pieds dans la glèbe. Et je vais traiter le sujet juste à l'inverse du titre, parce que euphoniquement, le titre allait bien en disant « Force du faible, arme du pacifique », mais du point de vue de la construction raisonnable, je suis obligée de le traiter dans l'autre sens, vous me pardonnerez de procéder de cette façon. Au fond, sitôt que vous avez deux ou plusieurs personnes qui vivent sur un territoire plus ou moins commun, quand je dis personne, j'entends donc bien des êtres humains, nous sommes d'ailleurs, je crois, d'accord sur cette définition de l'être humain. Quand vous avez deux ou plusieurs personnes qui vivent sur un même territoire, il y a tout de suite un problème de partage qui se pose. Partage de biens, partage d'influence, partage de pouvoir. Et ce problème de partage, on peut le résoudre d'une manière très simple, c'est en se tapant dessus. Et puis en fait, le plus fort gagne. Avec pour conséquence, quelquefois, que le plus faible est tué, ou d'autres fois simplement que le plus faible est réduit en esclavage ou à rien du tout et qu'on lui ramasse ce qui appartenait à ce plus faible. Mais on peut aussi, dans certains cas, se dire qu'il serait mieux de trouver un moyen de résoudre les problèmes de partage sans courir le risque de destruction. Et j'en arrive à la conclusion qu'en fait, c'est par instinct de conservation que l'on va se tourner vers le droit et que le droit est ce moyen que, poussé par son instinct de conservation, l'homme a trouvé de résoudre les problèmes de partage sans recourir à la force ou à la violence. Ah, c'est très joli, Mais encore faut-il que ce moyen permette d'atteindre ce but. Et pour pouvoir atteindre ce but pacifique, parce que le droit est fondamentalement pacifique, il faut évidemment que ce moyen obéisse à certaines exigences. Et la toute première exigence, c'est que là où les personnes qui songent à y recourir soient elles-mêmes mues par un instinct de conservation. Je maintiens que si on n'a pas un certain instinct de conservation, on ne sera pas intéressé à la recherche du droit. Et le droit, ce seront, nous le verrons dans un instant, des règles qui permettent d'assurer cette vie en société avec le partage. Instinct de conservation. Il y a donc des cas dans lesquels il n'y aura pas de possibilité de recourir au droit. C'est lorsqu'une personne n'a pas d'instinct de conservation parce qu'elle n'a rien à conserver, parce qu'elle n'a pas de bien, parce qu'elle n'a pas d'affection, parce qu'elle ne tient même pas à sa vie, le droit ne servira à rien. Ou bien, lorsqu'une personne n'a pas besoin de recourir au droit parce qu'elle sait qu'elle est la plus forte et que ça lui est bien égal que l'autre soit supprimé. Peut-être qu'on a quelquefois ce sentiment en droit international, nous y reviendrons, vous y avez presque fait allusion tout à l'heure. Mais l'instinct de conservation peut être supprimé aussi lorsque par une conviction de nature éventuellement religieuse ou peut-être philosophique, on pense que la seule manière de gagner l'éternité, c'est de tuer ou de se faire tuer. Parce que selon une croyance que l'on peut avoir, on a une divinité qui a besoin de cela pour vous accorder une protection, une réussite. Et puis je me pose la question actuellement, et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, est-ce que dans notre société occidentale, nous avons encore en majorité un véritable instinct de conservation? Quand je vois que les principales préoccupations qui font l'objet de débats dans nos sociétés occidentales, c'est l'avortement, c'est l'euthanasie, c'est l'homosexualité. Excusez-moi, je ne crois pas que ce soit des promesses de vie. Je crois que ce sont des instincts de mort et qu'il y a peut-être une perte de l'instinct de conservation dans nos sociétés occidentales actuelles. Pour moi, c'est un problème extrêmement préoccupant. Et d'autant plus préoccupant que ces mêmes sociétés occidentales sont malgré tout, depuis plusieurs siècles, ce que l'on peut appeler des sociétés judéo-chrétiennes. Autrement dit, des sociétés dans lesquelles il y a un Dieu qui est un Dieu de vie. Nous avons peut-être, j'ose le dire comme ça, mais comme membres de sociétés judéo-chrétiennes, et nos églises aussi, une responsabilité, nous n'avons donc pas su transmettre cette promesse et cet amour de vie qui est celle dont nous vivons. Il y a une responsabilité de nos sociétés et de nous peut-être, dans la mesure où nous nous sentons concernés par cette vérité profonde, une responsabilité à laquelle nous avons failli. Et ça m'interpelle très fortement. Est-ce que cela pourrait expliquer cette recrudescence de violence qu'il y a quand même dans nos sociétés occidentales aussi? Je vous pose la question, est-ce que nous avons failli dans la tâche de transmettre un goût de vie, donc un instinct de conservation qui permet d'aller de l'avant et qui permet, j'y reviens parce que rassurez-vous, je vais quand même traiter le sujet, et qui permet de chercher des règles de droit pour assurer une certaine harmonie pacifique dans la vie en société. Ça, c'est la première condition. Il faut avoir un instinct de conservation pour chercher ces règles-là. Mais ça ne suffit pas. Si on veut que le droit remplisse sa mission pacificatrice ou pacifique, encore faut-il que les règles élaborées puissent être obéis spontanément. J'insiste sur le spontanément parce que on peut évidemment se dire, on peut les imposer. On peut recourir à la sanction pour sanctionner la violation. Mais la sanction ou la menace de la sanction n'est pas la manifestation pacifique du droit. C'est peut-être un moyen nécessaire, nous y reviendrons, mais ça n'est pas l'aspect pacifique du droit. Pour que le droit remplisse un véritable aspect, une véritable fonction pacifique, il faut que les règles élaborées puissent en fait être obéies spontanément, mais pour cela, elles doivent remplir certaines conditions. Et c'est essentiellement à deux catégories de conditions que je vais m'arrêter. La première condition, c'est que les règles soient ressenties comme légitimes. Et là aussi, je reviens sur un problème que vous avez abordé. Et puis la deuxième condition, mais je vais développer évidemment chacune d'entre elles, c'est que ces règles aient un certain contenu acceptable. Que la règle soit ressentie comme légitime, ça c'est évidemment un gros problème. C'est un gros problème parce qu'il faudra qu'à égalité, on obéisse à la règle. Il ne s'agit pas de pouvoir prétendre qu'on y échappe ou qu'on n'est pas concerné. C'est à égalité qu'on doit pouvoir obéir à la règle. Et cette égalité, elle ne pourra être imposée que, ou assurée que de deux manières, soit par une autorité, mais qui jouit d'un rayonnement particulier, soit alors par la démocratie, qui permet au fond à chacun, théoriquement, de contribuer à l'élaboration de la règle. Et là, à ce point de vue-là, dans notre pays, nous sommes évidemment plus que gâtés, puisque nous avons la possibilité, par le référendum notamment, de rectifier les règles qui nous déplairaient parce qu'elles auraient été élaborées peut-être par un Parlement qui se croit d'avant-garde. Il faut donc que la règle soit ressentie comme légitime. Elle peut parfaitement être ressentie comme légitime alors qu'il y aurait une autorité oligarchique, voire monarchique, si celle-ci est acceptée et ressentie par l'ensemble de la population à laquelle s'appliqueraient les règles élaborées par cette autorité, comme une autorité éclairée, comme une autorité respectée. Mais vous savez comme moi que dans beaucoup de cas, lorsque le pouvoir est groupé dans les mains, réuni dans les mains d'une seule ou de très peu de personnes, il risque d'être ressenti comme injuste et illégitime. Je pense que dans nos sociétés démocratiques, le droit peut atteindre parfaitement, ou presque, rien n'est parfait dans ce bas monde, mais peut atteindre au mieux son exigence de légitimité parce qu'il fait l'objet d'un débat qui intéresse tous ceux qui veulent bien participer. Mais on rejoint là la problématique, la légitimité pourra être assurée par la participation. Parce qu'après, si on ne participe pas, on dira « mais c'est pas légitime, il y a seulement 50%, 40% des personnes qui ont répondu à une question ». La légitimité de la règle dépend dans un pays démocratique non seulement du débat aussi large que possible, mais aussi, je crois, de la participation, et c'est un aspect, encore une fois, où je rejoins les remarques qui ont été faites tout à l'heure. Pour que la règle soit obéie spontanément, il faut d'abord qu'elle semble légitime. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elle ait un certain contenu. Et là, nous abordons un point particulièrement délicat. Le droit est à la fois une science humaine et une science sociale. Autrement dit, les règles qui constituent le droit, puisque c'est cette spécificité du droit que doit représenter un ensemble de règles, doivent être inspirées par l'être humain, par la personne, et capables de satisfaire les exigences d'une communauté, d'une société. Je me place évidemment, d'une manière générale, plus peut-être du point de vue du droit national, mais pas forcément, parce que nous y reviendrons. je ferai quelques incursions en droit international. Il y a aussi la société internationale qui sera concernée par les règles de droit et pour lesquelles les règles de droit doivent accomplir cette même mission de pacifique, de pacifisme, si j'ose dire, ou de pacificité. Donc le contenu de la règle doit tenir compte du fait qu'elle s'adresse à des êtres humains et que ces êtres humains ne sont pas parfaits. Nous sommes tous, je crois, en tout cas moi je suis sûre de ce que je dis en ce qui me concerne, plein de défauts, avec quand même quelques qualités, hein, soyons honnêtes, on les aime assez, mais aucun de nous n'est parfait. Par conséquent, le droit sait bien qu'il va poser des règles qui, le cas échéant, devront faire face à la nature humaine qui est jalouse, qui est paresseuse, qui est assez intéressée par la tricherie, qui est peut-être vaniteuse, qui est peut-être avare. Nous avons dans une société tous ces défauts-là et chaque être humain en a quelques-uns. Et c'est pour ça qu'évidemment, il est pratiquement inimaginable d'arriver à un droit qui serait parfait. Aucun droit ne pourrait être parfait, tout simplement pour la pure et simple raison que l'application de ce droit va toujours titiller un défaut ou un autre de la nature humaine. Mais le droit est une science sociale. Autrement dit, le droit doit satisfaire la demande et les besoins d'une certaine communauté, d'une certaine société. Il s'agira donc d'étudier profondément quels sont les besoins, les aspirations, les traditions, l'histoire, les valeurs de la société à laquelle les règles sont destinées. Si on s'imagine, parce qu'on est peut-être un législateur inspiré, que l'on a le droit de poser une règle de droit qui va modifier profondément, par la contrainte et non pas de manière pacifique, les habitudes, les valeurs d'une société, on est tout simplement un tyran totalitaire. Je ne crois pas aux règles de droit qui prétendent éduquer une société en lui imposant un changement. La règle de droit peut favoriser une qualité que l'on sait exister dans une société et tâcher de la rendre encore plus sympathique et répandue. Je pense peut-être aux efforts qui sont faits pour assurer une certaine forme d'égalité au sens pas égalitarisme, cette idiote d'égalité arithmétique, non, au sens de respect de chaque personne dans sa différence, son originalité, mais aussi de respect de l'égalité quand il s'agira de questions de salaire, soyons réalistes, hein. C'est aussi un élément de la règle de droit pacifique. Mais je ne crois pas à la règle de droit qui va imposer un changement de société par rapport, disons-le, à une conception du mariage. Et on sait qu'il y a quelque chose qui boue dans la marmite fédérale. Je ne crois pas à une règle de droit qui imposerait une modification profonde de la famille ou de la notion de la filiation. C'est une règle totalitaire parce que ça ne correspond pas, en tout cas au stade actuel, aux véritables valeurs et aspirations d'une société. Pour que la règle de droit soit obéie spontanément, elle doit tenir compte de ce qui est vraiment la valeur majoritaire ou les valeurs majoritaires d'une société. Alors nous nous trouvons maintenant, en Suisse notamment, devant une difficulté liée à la modification constante de la composition de la société. C'est vrai que notre société, par l'ouverture des frontières, mais qui n'est pas que chez nous, par le mouvement général de globalisation, de déplacement, etc., est une société beaucoup plus mélangée qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Alors il ne s'agit pas du tout de plaider, rassurez-vous, je ne plaide pas la fermeture des frontières et je ne suis pas platonicienne, il ne s'agit pas de dire on vit simplement dans notre petite communauté. Il s'agit seulement de se rendre compte qu'on a une société qui n'a peut-être plus les mêmes références que ce qui étaient les siennes il y a quelques années et qu'il faut être très attentif à ce qui compose cette société de manière à formuler des règles de droit et à trouver des règles de droit qui puissent atteindre leur effet pacificateur. Mais se pose alors, et ce sont deux particularités que l'on va retrouver, enfin l'une dans notre pays notamment, la nécessité d'avoir des communautés aussi petites que possible, en particulier lorsqu'il s'agira de règles touchant aux valeurs et touchant à l'éthique, touchant aux mœurs peut-être. Là, le fédéralisme est évidemment chez nous une valeur essentielle. Jamais il ne faudrait qu'une règle de nature religieuse, par exemple, devienne une règle fédérale, excusez-moi. Plus que jamais, la notion fédéraliste est importante. Nous avons des sensibilités différentes, nous avons des valeurs formulées de façon un peu différente dans les cantons. Je sais qu'il y a certaines personnes qui souhaiteraient beaucoup avoir des règles générales en matière religieuse, pour que ça soit imposé une fois pour toutes sur le plan fédéral. Mais quelle horreur ! Ce serait assurer l'échec de l'effet normalement pacificateur de la règle de droit. Mais alors, quid de ce que l'on appelle le communautarisme ? Parce qu'au fond, mesdames et messieurs, notre fédéralisme, c'est du communautarisme cantonal. Et ce communautarisme cantonal est une petite merveille. D'ailleurs, juste petite parenthèse, mais je trouve que l'aménagement du territoire n'avait pas forcément à être réglé sur le plan fédéral. De vous à moi, ça serait bien plus normal qu'il soit réglé sur le plan cantonal. Mais ça, je ferme la parenthèse. Il aurait été plus pacificateur, d'ailleurs. Il ne l'est pas vraiment quand il est fédéral. Preuve que l'on doit s'adapter à la communauté et chercher profondément quels en sont les besoins et les désirs. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que le droit doit toujours être bon. Je ne crois pas du tout qu'une communauté soit naturellement bonne. Je crois que le droit ne peut être pacificateur que s'il tient compte de ce dont a besoin, ce que désire peut-être une communauté. Sauf d'ailleurs, mais j'y reviendrai, à modifier les valeurs fondamentales de la dite communauté, mais par d'autres moyens que la trique. Alors, communautarisme, est-ce qu'en fait, nous devrions peut-être, dans l'idée de ce droit pacificateur, admettre que certaines communautés appliquent leurs propres droits parce que les valeurs qu'elles ont ou les certitudes qu'elles ont ne sont pas les mêmes que les nôtres? Ma réponse est profondément non, parce que nous nous heurterions alors à un problème de légitimité. Il n'y aurait plus d'égalité dans la légitimité des règles qui assurent dans notre pays l'effet pacificateur du droit. Je crois que le communautarisme que certains défendent, demandant qu'une communauté puisse appliquer les règles qui lui sont propres, est un obstacle à l'effet pacificateur du droit, parce qu'elle porterait atteinte à la légitimité de la règle. Il y aurait des inégalités, des injustices dans l'élaboration de la règle, règle d'ailleurs qui, dans certains cas, serait même imposée par une communauté qui n'est pas du tout celle du pays dans laquelle se trouve la communauté qui réclame ce communautarisme. Nous avons une forme de communautarisme, le fédéralisme, c'est celle qui correspond profondément à la nature, à l'histoire de la communauté helvétique. Restons-y fidèles, n'en inventons pas d'autres qui serait une sorte de subdivision sans légitimité. Mais peut-être faut-il aussi, pour que la règle ait son effet pacificateur, qu'elle ait dans certains cas une sanction. Je ne suis pas du tout convaincue que la règle de droit n'existe que si elle est munie d'une sanction. Pas du tout, je ne suis pas de l'école de la sanction. En revanche, on peut penser que dans certains cas, comme la menace de la sanction est en fait l'utilisation de la peur du gendarme, soyons réalistes, quelle que soit la sanction, elle peut être civile, elle peut être pénale, il n'importe. En l'occurrence, la sanction peut être nécessaire pour faciliter l'obéissance spontanée à la loi. Mais il y a des cas dans lesquels la règle n'a pas de sanction. et doit quand même être obéie spontanément. Et je pense à certaines règles constitutionnelles, notamment. Nous avons dans la Constitution une règle en vertu de laquelle les régions et les communautés linguistiques doivent être représentées équitablement au Conseil fédéral. Cette règle n'a pas de sanction. Si une fois ou une autre, parce que les candidats les meilleurs seraient très, 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 très majoritairement, voire unanimement, suisse-alémanique, ou tessinois, ou francophone, le Conseil fédéral était plus majoritairement composé de francophones, etc., est-ce que pour cela, son élection serait nulle ? Non, il n'y a pas de sanction. La sanction indirecte, mais qui n'est pas celle prévue par la loi, puisque là, il n'y a pas de sanction dans cette règle-là. Elle est au fond spontanément suivie, cette règle, par le Parlement, au moment où il élit les membres du Conseil fédéral. Mais si c'était violé, il y aurait peut-être un malaise dans la population. Il y aurait peut-être une difficulté à reconnaître la légitimité, mais il n'y aurait aucune sanction de nature juridique, parce que c'est une règle sans sanction. Pourquoi ? Parce qu'on part de l'idée qu'au fond, elle correspond profondément à la sensibilité du pays et que par conséquent, elle sera aussi obéie spontanément par les membres du Parlement. Mais vous savez comme moi qu'il arrive que des règles, même constitutionnelles, ne soient pas respectées. Lorsque nous avons eu, pendant quelque temps, l'interdiction d'avoir deux représentants d'un même canton au Conseil fédéral, et qu'après avoir décidé que les représentants du même canton étaient déterminés par leur indigénat cantonal, puis avoir constaté que de ce fait on pouvait avoir deux hommes politiques vaudois, mais l'un d'origine vaudoise, l'autre d'origine neuchâteloise au Conseil fédéral, on s'est dit non, il faut peut-être changer un peu la règle, et on a dit il faut que le Conseil fédéral est considéré comme provenant du canton où il est domicilié, où il a exercé ses droits politiques. Résultat, quand on a élu Mme Dreyfus, elle était domiciliée dans le canton de Berne. On lui a bricolé un domicile artificiel illégal dans le canton de Genève, parce qu'il y avait déjà un Bernois élu en l'apparence de la personne de M. Ogui. Et personne n'a demandé l'annulation de l'élection de Mme Dreyfus, alors qu'il y avait eu une violation manifeste de la loi. Ce que l'on a fait simplement par la suite, on a changé la loi de manière que tout soit en ordre et on prévoit maintenant qu'il peut même y avoir plusieurs représentants d'un même canton au Conseil fédéral. Donc vous voyez qu'il y a des règles qui n'ont pas de sanctions. Dans certains cas, c'est parce qu'on pense qu'il y a assez de bon sens pour les respecter. Dans d'autres cas, on aurait pu penser que les parlementaires étaient assez honnêtes pour respecter la règle posée. Eh bien, c'était au nom d'ailleurs du droit d'une femme à accéder au Conseil fédéral que l'on n'a pas hésité, dans certains cas, à violer une règle. L'effet pacificateur du droit, à mon avis, n'était pas atteint. Mais enfin, c'est le passé. Tout a été changé. Je reviens encore à la sanction. La menace de la sanction, je dis, peut être, dans certains cas, une manière d'inciter à l'obéissance spontanée à la règle. Mais aussi bien que certaines personnes n'ont pas d'instinct de conservation, d'autres ne vont pas être intimidées par la sanction. Mais elles vont assumer la sanction au nom d'une valeur qu'elles défendent et qu'elles estiment supérieure à la valeur incluse dans la règle dont la sanction devrait assurer le respect spontané. Je pense, comme exemple, au cas passé des objecteurs de conscience. Vous vous rappelez, un certain nombre d'objecteurs de conscience ne pouvaient pas accomplir leur obligation militaire et leur obligation de servir parce que pour eux, c'était inconciliable avec le commandement « tu ne tueras pas ». Je ne porte pas de jugement sur cette manière, si vous voulez, d'interpréter le commandement « tu ne tueras pas ». Mais je dis, au nom d'une valeur que certaines personnes considéraient comme essentielle pour elles, elles ne pouvaient pas respecter une loi qui contenait aussi une valeur, incontestablement, l'obligation de servir inclut une valeur de service, une valeur de don de soi, le cas échéant. Mais bref, ces personnes acceptaient la conséquence de leur refus de la loi parce qu'elles acceptaient, le cas échéant, la privation de liberté, la condamnation à une peine privative de liberté. On peut ne pas partager leur conception des valeurs, je crois qu'on ne peut que respecter dans cette hypothèse, mais qui doit être une décision personnelle, le refus d'obéir à la loi. Si l'on pense à ceux qui ont rejoint les Brigades Rouges à l'époque de Franco et qui voulaient, les Suisses, qui voulaient lutter contre ce qu'ils considéraient comme un régime très déplaisant et qui ont été condamnés parce qu'ils étaient... juste le mot m'échappe en ce moment. Ils étaient... Quand on refuse de faire son service militaire. Déserteur, voilà, excusez-moi, le mot venait de m'échapper. Eh bien, ils ont été condamnés. Et alors, je vais vous dire, je trouve monstrueux maintenant quand on dit qu'il faut en fait les réhabiliter. Leur honneur, c'était d'avoir osé braver une condamnation et l'assumer au nom d'une valeur qui était la leur. Et si on dit après qu'on les réhabilite, on les prive de ce qui était leur véritable honneur. Je crois qu'on doit se poser cette question. Il y a des cas dans lesquels celui qui ose braver la loi au nom d'une certaine valeur et qui ose assumer la conséquence de la peine fait preuve de sa capacité aussi citoyenne. Mais dans cette hypothèse, évidemment, ça montre bien que la menace de la sanction n'assure pas l'obéissance spontanée à la règle. Je disais donc que si vous voulez que la règle atteigne son but pacifique, il faut qu'elle soit ressentie comme légitime, qu'elle ait un contenu qui corresponde aux valeurs fondamentales de la société à laquelle elle s'applique, et puis, le cas échéant, elle peut avoir une sanction parce que la menace de la sanction peut inciter à l'obéissance spontanée, donc à l'attitude pacifique, parce que l'obéissance spontanée est tout à fait pacifique, même si on râle des fois tout seul dans sa chambre, mais ça n'a pas d'importance, ça fait partie de l'équilibre moral de chacun. Une fois que nous avons posé ces principes, est-ce qu'on peut vérifier que cette arme pacifique est en fait la force du faible ? Alors, je vais d'abord me placer du point de vue du droit interne. Il y a une disposition du droit suisse que nous trouvons dans le Code civil et qui, à mon avis, est la consécration parfaite de ce principe, la force du faible. C'est l'interdiction de l'abus de droit. Vous avez un droit, mais vous allez utiliser votre force, votre situation privilégiée pour en abuser. Ah, merveilleux, on va dire, vous avez le droit plus la force. Non, le droit suisse ne protège pas l'abus de droit. L'abus de droit est en fait nul, va avoir un résultat nul. Et je trouve cette règle admirable parce qu'elle illustre profondément le principe selon lequel le droit est la force du faible. Le droit n'est pas mis à la disposition de celui qui est fort pour augmenter sa force. C'est ça que cela signifie. Ça ne veut pas du tout dire que la personne qui se trouve dans une situation de force n'a pas le droit d'utiliser le droit comme tout le monde. Mais il ne peut pas l'utiliser de manière à renforcer sa force. C'est toute la question des monopoles. Lorsque vous avez une situation dominante, vous ne devez pas pouvoir profiter de cette situation dominante pour en fait utiliser les droits liés tout simplement à l'exercice de votre activité, en l'occurrence professionnelle ou commerciale. Le droit n'est pas là pour augmenter la force du fort. Il est à la disposition de tous avec égalité, mais il a pour conséquence d'être la force du faible. De même, lorsque vous avez un contrat d'adhésion, une assurance qui vous propose un contrat d'adhésion, vous n'avez pas tellement de possibilités d'en discuter. Mais lorsqu'il sera interprété, lorsqu'il s'agira de l'appliquer, on ne va pas d'abord favoriser celui qui est l'auteur du contrat, On va d'abord chercher l'interprétation en fonction de ce qu'a pu comprendre le faible, celui qui était tout seul en train d'adhérer, parce que le droit, et en l'occurrence l'interprétation, va être d'abord la force du faible. Je trouve que sur le plan de tous les mécanismes de notre droit, et notamment de notre droit suisse, il y a là une concrétisation systématique du principe en vertu duquel le droit est la force du faible. Mais encore bien, je veux être clair, il ne s'agit pas de dire que le fort, qu'il soit riche, qu'il ait une position monopolistique, vous voyez, n'a pas le droit d'utiliser le droit, pas du tout. Simplement, il ne peut pas utiliser le droit pour accroître sa force. Il peut utiliser le droit de la même manière que tous les justiciables. Et si le justiciable est faible, eh bien, il est en fait fortifié par le droit de manière à être placé sur un plan d'égalité avec le fort qui jouit d'autres avantages. Je trouve que cette manière d'illustrer le principe selon lequel le droit est la force du faible est passionnante et à ce point de vue, notre code civil est une petite merveille, disons-le. Bon, il y a aussi des règles qui m'énervent. Hein. Alors, et puis il y a des règles qui ont été élaborées de façon un peu bizarre par le Parlement. Bref, on a tous fait des bêtises dans sa vie. Mais il y a des règles fondamentales, et ce sont souvent les plus anciennes, qui trahissent cette qualité exceptionnelle, pacifique et respectueuse de la personne qu'assurent les règles de droit, pour autant, du moins, qu'elles soient élaborées avec l'idée du respect de la personne, ce qui implique la légitimité, ce qui implique le contenu. Et sur le plan international, parce que je vais quand même y venir un instant, mais en tremblant, alors je peux vous dire en tremblant. Nous sommes un petit pays. Nous sommes un petit pays et neutre, ce dont je me réjouis d'ailleurs. Et en fait, notre vraie force sur le plan international, c'est le droit international, c'est-à-dire notamment les traités. Parce qu'il faut bien le dire, les rapports fondamentaux sur le plan international, qui sont quand même des rapports entre États, vous l'avez rappelé, même s'ils ne sont pas les seuls rapports qui existent, sont des rapports de force. Les rapports entre États sont d'abord des rapports de force. Et nous savons bien que nous ne sommes pas un État fort lorsqu'il s'agit de faire face à toute une série d'États. Nous n'avons donc qu'un moyen, les traités, puisque c'est dans les traités qu'il y a les règles de droit. Et les traités, c'est la raison pour laquelle nous en avons d'abord énormément. Quand on vient de nous dire qu'il y a, excusez-moi, un Alleingang suivant les cas... Non, l'Alleingang, c'est un mot qui a été créé par rapport à l'Union européenne, mais nous sommes probablement un des pays qui a le moins d'Alleingang au monde, étant donné le nombre de traités que nous avons avec l'ensemble des États qu'il y a dans le monde, parce que ces traités sont la force du faible. Et nous sommes un petit État. Alors certes, du point de vue économique, nous avons certaines influences, mais nous restons un petit État. Et nous en avons quelquefois trop conscience, d'ailleurs, quand on demande pardon avant même de se mettre à la table de négociation. Mais ça, c'est une petite parenthèse que je me permets. Alors sur le plan international, le droit est incontestablement, par les traités, la force du faible. Mais, vous l'avez évoqué tout à l'heure, quelle est la légitimité même des traités ? Certes, ils sont négociés par des personnes qui ont reçu certains pouvoirs, mais en fait, ils n'ont pas du tout la même catégorie de légitimité démocratique, en tout cas par rapport à chez nous, que le droit interne. Il est néanmoins, il faut être réaliste, inimaginable d'élaborer des traités comme on élabore une loi. Il faut se tenir compte, d'une part, de la susceptibilité des États. Tant qu'on est en train de préparer un traité, ce sont des rapports entre États, notamment pour élaborer ces traités. Et aucun État ne veut perdre la face. Par conséquent, je crois qu'une partie de la diplomatie sur la place publique est une mauvaise diplomatie. Il y a toute une partie de la bonne diplomatie qui doit se faire assez discrètement pour être efficace. Il n'en demeure pas moins que la légitimité du droit international reste un des points délicats. C'est donc un élément de faiblesse du droit international. Le contenu des traités reste un point délicat aussi, parce que même ceux qui comporte de grandes valeurs. Et je pense au traité de sauvegarde des droits de l'homme. En réalité, on sait que les droits de l'homme correspondent à des valeurs qui ne sont pas forcément reconnues dans toute la communauté internationale. Donc, est-ce que le contenu de ces traités a un véritable effet pacificateur? Peut-il avoir un effet pacificateur pour l'ensemble de la communauté internationale? On rejoint indirectement des questions que vous avez posées. Je n'ai aucune réponse, d'ailleurs. À propos de traités internationaux, il faut aussi se rendre compte que aucune sanction n'est vraiment possible. La sanction n'est jamais, en fin de compte, que la manifestation de force de certains États qui n'accepteront pas que l'on veuille peut-être renégocier des traités ou que l'on veuille peut-être l'interpréter différemment. Les rapports entre États étant des rapports de force avant tout, l'effet pacificateur est plus difficile à obtenir sur le plan international qu'il ne l'est sur le plan national, incontestablement. Et pourtant, c'est certain que les traités internationaux ont un effet pacificateur quand ils sont respectés. Deux éléments me troublent à propos de cet effet pacificateur et de cette obéissance spontanée de la part des États. Premièrement, lorsque des traités prévoient qu'on ne peut pas les dénoncer, je ne suis pas certaine qu'un traité qui est annoncé non dénonçable ait un effet pacificateur. Parce qu'en réalité, il représente une contrainte qui pourrait être d'ailleurs exercée par les États les plus forts qui auraient éventuellement ratifié ces traités. Je pense qu'un traité qui, a priori, est annoncé non dénonçable est un traité qui crée du droit non pacificateur. Mais là, je vous donne une opinion personnelle, hein, parce que je pense que je suis en désaccord profond avec la doctrine des internationalistes. Et puis, deuxièmement, contenu d'un traité. Apparemment, il y aurait une catégorie de contenu qui serait impératif, qui serait ce que l'on appelle du jus cogens. On nous parle beaucoup de jus cogens. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce droit impératif, obligatoire, auquel on ne peut pas déroger, qui s'imposerait d'ailleurs même au droit national? C'est dans la Convention de Vienne sur les traités, qui est à part ça une convention remarquable, que l'on trouve la définition du jus cogens. Et je vous la donne parce que je crois qu'elle mérite d'être connue. Elle n'est peut-être pas assez souvent donnée quand on en parle. Excusez-moi, je la cherche. Une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. Le seul fait, à mon avis, que la définition concerne une communauté internationale des États montre qu'il ne peut pas y avoir de jus cogens, parce que lorsqu'on se place du point de vue des États, on se place d'abord du point de vue de la force, et que par conséquent, c'est en fonction de ce qui aura convenu à une certaine majorité, mais ce n'est pas l'ensemble, ça n'est jamais l'ensemble des États, que le jus cogens est élaboré. Et puis le jus cogens, qui serait apparemment quelque chose d'obligatoire, ne pouvant être changé, on nous dit justement qu'il subsiste jusqu'à ce qu'une nouvelle norme le remplace, une nouvelle norme élaborée par la communauté des États. Je vous demande pardon. Pour moi, le jus cogens est une création qui permet simplement d'exercer une certaine menace sur la réflexion que les gens voudraient faire sur les règles de droit. J'ai parfaitement conscience de dire des choses horribles du point de vue d'un internationaliste, mais je crois que des fois, il faut aussi oser le dire. Nous avons des valeurs, oui, et des valeurs dans une société. Ces valeurs-là, nous devons les défendre. Elles ne seront véritablement répandues dans la société que si nous osons les défendre, si nous osons dire au nom de quelles valeurs nous souhaitons que quelle loi ait ou n'ait pas tel contenu. Nous souhaitons peut-être que telle initiative ait ou n'ait pas tel contenu. Nous n'avons pas à nous préoccuper de ce que d'aucuns appellent le jus cogens. Si nous n'osons pas défendre nous-mêmes les valeurs auxquelles nous sommes attachés, nous n'obtiendrons jamais l'effet pacificateur du droit. Et je voudrais quelquefois que les parlementaires aussi se rappellent cela. Merci de votre attention.
Voilà, merci Madame Sando pour ces propos bien sentis. Je pense qu'il y a des questions dans la salle. Là aussi, peut-être comme tout à l'heure, François Xavier Pitala, je vais profiter de ce petit moment d'attente pour vous poser une question. Il y a une expression qui m'a frappé dans votre propos, vous l'avez utilisée une seule fois, c'était celle du bon sens. Et je sais que vous appréciez énormément les auteurs classiques du XVIIe siècle. Il vient à l'esprit une formule de La Bruyère, à peu près celle-ci, en disant que le bon sens, tout le monde essaie de s'en prévaloir, mais c'est certainement la qualité la moins bien partagée. Alors maintenant, j'aimerais peut-être que vous puissiez me dire quelle est, dans le droit, dans le droit international aussi, la part de bon sens qui peut être attendue, hein, des différents États, de la communauté des États, ou de manière plus simple, qu'est-ce que pour vous le bon sens dans le droit?
Alors, je crois d'abord que le droit est d'autant meilleur qu'il est marqué au coin du bon sens. Alors, entendons-nous bien, il y a quelques règles qui ne peuvent pas forcément avoir été marquées au coin du bon sens, parce que pourquoi est-ce qu'on fixe à 30% le taux d'impôt, etc. C'est une question de calcul. Hein. On est bien d'accord, il s'agira souvent de règles de nature très générale et peut-être à portée éthique. Hein. Le bon sens, c'est après tout ce qui permet d'être le plus en harmonie avec l'identité de la personne. Je crois que la personne a été créée avec du bon sens et que ce qui est conforme ou en harmonie avec l'identité de la personne est du bon sens. Je dirais qu'il y a un certain bon sens à penser qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Voilà, est-ce que je réponds à votre question sur ce plan-là? Vous m'en avez posé une. En droit international. Non, alors je crois qu'en droit international, le problème du bon sens se pose très différemment parce que nous avons un rapport essentiel entre des communautés, soit des États, soit même les organisations internationales. Elles représentent un ensemble, etc. Je pense que la notion de bon sens est fondamentalement une notion individuelle, personnelle, liée à l'identité de la personne. Mais dans la mesure où la communauté internationale mettrait la personne au centre, elle devrait arriver, mais je crois qu'il ne faut pas rêver, hein. La communauté internationale n'est pas encore une communauté de personnes. Je le regrette, mais je ne vois pas non plus très bien qu'elle serait alors, je dévie un tout petit peu, excusez-moi de la réponse à votre question, mais quelle serait la légitimité d'élaboration de la règle qui s'appliquerait à la communauté internationale complète. Oui. Pour faire une certaine légitimité, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais évidemment, d'ici qu'on ait la communauté internationale qui accepte un parlement international, je crois qu'il ne faut pas rêver. Et puis je n'aurais pas très envie d'avoir une autorité exécutive à une personne présidente de la communauté internationale. Et vous? Oui. Out of question, oui, tout à fait. Pardon. Mais c'est passionnant parce que au moment où vous en parliez, je me disais comment est-ce qu'on poserait la légitimité d'une communauté internationale où primeraient les personnes. Et encore faut-il tomber d'accord sur la notion d'identité et de la personne. Et là, on retombe sur des cultures, des histoires et des traditions. Je crois que ça rejoint une question, peut-être c'est vous qui l'avez posée à M. Michel. En réalité, je crois que c'est véritablement, là aussi, par les communautés plus restreintes que doivent commencer la recherche de protection de l'environnement. Les protections de l'environnement ne sont pas, disons, les moyens de protéger l'environnement ne sont pas les mêmes dans notre pays ou en Centrafrique. Les besoins auxquels on fait face ne sont pas les mêmes. Le gaspillage auquel on fait face n'est pas le même. Si on n'a pas déjà la communauté, je dirais nationale, sur laquelle on peut exercer une certaine... avec laquelle on peut avoir une discussion de compréhension, je dirais, on risque d'échouer totalement. Il est clair que je ne peux pas prétendre imposer... à telle ou telle région du monde, de trier ses déchets de la même manière que je peux essayer d'y inciter les gens chez nous, avec un succès relatif, on l'a déjà constaté, quand on voit l'état des rues de Lausanne après que certaines personnes aient consommé pendant la nuit. Après que soit suivi de l'indicatif. On fait tout le temps cette faute chez les journalistes. Mais excusez-moi, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est un petit peu... Ni si j'ai répondu à votre question, monsieur. Alors, vous avez raison. Je pense que penser globalement veut dire qu'il faut attirer l'attention et éveiller la sensibilité probablement de l'ensemble des gouvernements, etc., sur la problématique de l'environnement. Mais penser globalement ne veut pas dire prendre globalement les mêmes mesures. Et je pense que c'est plutôt une question d'état d'esprit, de mûrissement des esprits sur une responsabilité. On rejoint la notion de responsabilité que vous aviez évoquée. Si on développe la responsabilité par rapport à l'environnement, on pourra peut-être arriver à avoir des communautés locales qui vont dire, par rapport à mon environnement, qu'est-ce que je peux faire ? C'est vrai que ça ne suffit pas de ne penser qu'à son environnement. Il faut avoir pensé globalement, mais agir localement, je crois. Alors non, excusez-moi, le droit reste la force du faible. Peut-être que la mise en œuvre du droit n'a pas forcément été prévue de la façon la plus adéquate. En revanche, il faut quand même reconnaître que ça reste évidemment très humain que d'essayer d'utiliser son pouvoir pour essayer de se protéger soi-même. Ça, on ne changera pas la nature humaine qui est à la fois bonne et mauvaise. Mais lorsqu'on pense qu'il y a quand même des possibilités d'accès à la justice avec l'assistance judiciaire gratuite, quand on pense qu'il y a des possibilités d'accès à la justice sans obligation de recourir à un avocat, puisqu'il n'y a pas forcément l'obligation de se faire représenter, et quand on pense qu'il y a aussi des associations qui représentent le cas échéant des personnes, je crois que vous avez raison, le faible, s'il s'agit d'économie, reste peut-être toujours faible, mais le droit lui est mis à disposition, c'est la même règle. On ne supprimera jamais les injustices liées aux inégalités de force et de faiblesse, mais le droit est assurément d'abord la force du faible. Mais je comprends votre question. Je comprends votre question parce qu'on se sent des fois démunis à l'égard d'une collectivité, peut-être parce que la collectivité est composée de personnes qui n'ont pas toutes la même conception du respect du droit. Je ne suis pas sûre d'avoir compris toute votre question. Est-ce que vous entendez qu'une initiative aurait été soumise au vote et que le résultat du vote a été influencé par le fait que c'était un sujet très chaud du point de vue affectif, sentimental? Vous ne pouvez pas, évidemment, en démocratie, vous placer dans la tête des citoyens pour savoir quels sont les motifs pour lesquels ils ont voté plutôt oui ou plutôt non. Si le vote s'est déroulé de la manière normale, du point de vue du secret du vote, du point de vue des cartes de vote, etc., il est clair que la procédure a été entièrement respectée, que la légitimité formelle est atteinte. Vous posez alors le problème de la légitimité de l'excitation affective que l'on provoque chez le citoyen, notamment parfois aussi avec l'aide des médias, et en particulier des médias, je dirais, visuels ou radiophoniques, plus encore que des médias écrits, mais néanmoins c'est possible aussi, et qui font appel à des sentiments plus qu'à de la réflexion. Mais vous ne pouvez pas changer les citoyens si les personnes réagissent plus avec leur tripes qu'avec leur tête. Vous ne pouvez pas changer le peuple quand le peuple a voté quelque chose qui vous déplaît. Mais ça tient peut-être alors personnellement, et ça c'est comme personne politique, je considère toujours que si quelque chose n'a pas passé dont je souhaitais que cela passe, ou quelque chose a passé dont je souhaitais que ça ne passe pas, c'est parce que j'ai mal fait passer le message. Quand je dis « j'ai », j'entends l'ensemble des personnes qui étaient du même avis que ce qui était le mien. Je crois qu'on doit de temps en temps se mettre face à sa responsabilité. Si on n'est pas suivi, alors qu'on souhaiterait que le résultat d'une votation soit celui-ci ou celui-là, c'est parce qu'on n'a pas réussi à faire passer le message. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire passer le message? Il y a deux raisons éventuelles. D'abord, parce qu'on a mal communiqué, et nous savons que l'époque de communication que l'on vit est probablement celle où on communique le plus mal. On n'arrête pas de mal communiquer. Et plus il y a de spécialistes de la communication autour des conseillers fédéraux, moins bien ils communiquent. On a vu ça en particulier lors des dernières votations. Et puis d'autre part, peut-être que c'est parce que nous n'avons pas su, indépendamment de l'objet en question, faire passer dans la population des valeurs qui nous étaient chères. On n'a pas su les transmettre, mais indépendamment, hein, pour qu'ensuite il y ait une catégorie de réactions plus équilibrées devant telle ou telle proposition. Je crois qu'on doit se mettre chaque fois face à ses responsabilités, et que c'est trop facile de dire on a éventuellement éveillé tel ou tel sentiment dans la population. On n'a pas réussi à faire passer ce que l'on considérait comme mieux. Moi, je crois qu'on doit être franchement toujours placé en face de sa responsabilité. Puis, ce n'est pas du tout décourageant, parce qu'on est en démocratie, on peut toujours espérer que ça pourra être corrigé. Ça, c'est une sacrée chance que nous avons. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, excusez-moi, ou bien entendu, devrais-je dire. Alors la dérive tient peut-être aussi au fait que nous n'avons pas encore su maîtriser les différents moyens de communication techniques que nous avons. Je crois que nous sommes encore des enfants de cœur par rapport aux moyens techniques de communication. Et comme toujours, quand on a une période où apparaît une nouveauté, on ne la maîtrise pas. Si vous pensez, on a vraiment découvert ce qui était peut-être l'horreur de l'arme atomique après l'avoir utilisée. C'est toujours après coup qu'on devient sage. Donc peut-être que quand nous aurons appris à mieux maîtriser certains moyens techniques, nous saurons mieux comment, je dirais, contrebalancer les effets éventuellement pernicieux que ça peut avoir. Parce que c'est vrai que maintenant, on livrera en pâture aux citoyens volontiers sur à la télévision notamment, telle ou telle information qui va peut-être démolir définitivement une personne et qu'on ne pourra plus jamais corriger, même s'il se révélait faux. Il y a là un élément nouveau dans la possibilité de nuire ou d'obtenir un mauvais résultat. Il y a aussi du positif, je crois que rien n'est jamais que négatif. Mais par rapport au problème que vous soulevez, je pense que nous n'avons pas encore réussi à contrebalancer l'effet essentiellement affectif que provoque notamment l'image. Je mettrai toujours le curseur du côté du fédéralisme parce que je pense que c'est à l'intérieur des cantons qu'il sera plus facile ou moins difficile d'essayer de développer une certaine responsabilité. Donc en fait, je pense que la responsabilité peut être mieux développée d'abord au sein du canton qu'elle ne peut être directement, par exemple, dans tout le pays ou évidemment à plus forte raison si c'était encore plus grand. Mais ça n'est pas pour séparer l'un de l'autre. C'est parce que je pense que l'un des deux est le meilleur moyen d'atteindre l'autre. Ça répond à votre question ?
François-Clavier ?
Alors, je ne mettrai pas la clarté sous l'angle de la légitimité. Pour moi, la légitimité, c'est au fond la procédure qui permet d'élaborer ce que l'on appellera une règle de droit, celle-ci pouvant être élaborée par un parlement, pouvant être élaborée par l'exécutif, pouvant être élaborée par le peuple avec le référendum, j'entends. C'est vraiment cet aspect-là qui confère sa légitimité, ou le sentiment de la légitimité, hein, parce que c'est encore une chose différente. En revanche, quand il s'agit de la clarté, c'est pour moi une règle contenue. Alors on pourrait regretter que trop rapidement la chancellerie dise le contenu est clair. La chancellerie, par exemple, fédérale, quand il s'agit d'une initiative fédérale, ou même cantonale, s'il s'agissait d'une initiative cantonale. Mais on se heurte là au problème d'une atteinte éventuelle à la liberté d'opinion, parce qu'il est possible que les auteurs, eux, considèrent que c'est vraiment cela qui exprime leur opinion. En revanche, on pourrait des fois s'attendre que pendant le débat, les auteurs soient plus clairs sur le contenu de l'initiative et qu'on puisse mieux les mettre, le cas échéant, en contradiction avec eux-mêmes. Moi, je crois que les initiatives sont beaucoup trop longues. Hein. On admet trop facilement des initiatives qui ont un contenu pratiquement législatif. Et ça, c'est un reproche que je ferai à la chancellerie, qui devrait, à mon avis, plus rapidement dire non. Ça, ce n'est pas une initiative constitutionnelle, c'est une initiative législative, donc elle ne va. On ne peut pas l'admettre sur le plan fédéral, mais vous pouvez très bien reformuler de manière que ce soit une initiative constitutionnelle. À ce moment-là, ça ne veut pas du tout dire le contenu nous déplaît, mais ça veut dire, attention, il y a une forme de niveau législatif qui ne va plus. Et, ce qui pose aussi le problème de l'unité de matière. Et malheureusement, alors je dirais que le Parlement n'est pas très courageux en matière d'unité de la matière, la chancellerie non plus, le Conseil fédéral non plus. On a peur, et je comprends, et on a raison, on a peur d'avoir l'air d'empêcher les citoyens de s'exprimer. Mais je pense que si on était plus strict sur une certaine unité de la matière, sur une certaine concision de l'initiative législative, de l'initiative constitutionnelle sur le plan fédéral en particulier, on n'empêcherait pas du tout les gens d'exprimer leur opinion, mais on les obligerait peut-être à l'exprimer de manière assez claire pour qu'en fait le contenu puisse être accepté ou refusé en pleine connaissance de cause. Alors l'avantage, quelquefois, quand le contenu n'est pas clair du tout, c'est que ça permettra plus facilement de le refuser, parce que des fois les citoyens n'aiment pas tellement quand le contenu est tout à fait abscon. Est-ce que ça répond un peu à votre question ?
Voilà, pour me faire pardonner le bouquet de compliments, vous vous êtes senti un peu trop flatté hein, tout à l'heure, de manière peut-être plus virile hein, au nom des organisateurs, eh bien, je tiens à vous transmettre un présent qui est légitime, il ne faut pas oublier que nous sommes en Valais, et qui a du contenu, vous pourrez apprécier ce merveilleux cru. Merci Madame Sandeau.
Vous dire, je trouve que là, l'égalité a du bon.
Voilà, pour les personnes qui sont inscrites au repas, nous allons nous déplacer au Ray, dans la salle du préau. Pour les personnes qui doivent malheureusement nous quitter, je vous rappelle qu'il y a une petite crousie à l'extérieur qui permettra aussi de couvrir les frais de cette journée. D'ores et déjà, bon appétit à tous.